CFM, le mag. Tous les jours, 12h, 12h30. La vie du Villefranchois.
Bah oui, tiens, le mag, et en plus c'est le 20 novembre avec en studio les HP, oui. Loulou et Nat. Hello, coucou.
Salut.
Rendez-vous hebdo de notre café associatif situé 34 rue Alibert, carte blanche en roue libre. Et champ libre, tiens, au HP.
Oui, et champ libre, on va parler cette semaine de la rencontre des CREFAD qui va se passer à l'URQR. À partir du jeudi 22 novembre et ce jusqu'au samedi 24. En sachant que les haut-parleurs sont partenaires, on y organise aussi une petite soirée, mais on va vous détailler tout ça et vous expliquer ce que c'est que le CREFAD. Et on va parler aussi du Réseau National des Bars Associatifs.
Je suis venu de mon plein gré, mais je n'en sortirai que par la force des baïonnettes.
Je vais manger.
Allez.
Donc, jeudi 22 novembre, à partir de 18h, et ce jusqu'au samedi 24 novembre, 17h aussi, l'URQR reçoit les rencontres des CREFAD. Alors, qu'est-ce que les CREFAD? Alors, ce sont des centres de recherche, d'études et de formation en animation et au développement. L'URQR, l'Université Rurale Quercy-Rouergue, fait partie du réseau des CREFAD. Et les haut-parleurs, dans le cadre de l'appartenance au Réseau National des Bars Associatifs, fait aussi partie des CREFAD. Moi, j'ai pu, quand j'étais salarié, participer à deux rencontres nationales des bars associatifs, une à Marseille et l'autre à Aix-en-Provence. Le but du jeu, c'est
T'as bien choisi tes villes.
Ouais, j'ai bien choisi mes destinations, parce qu'il y en a une autre à Caen, enfin bon, des trucs, c'était pas pareil.
On est désolé pour les gens de Caen, mais comme en même temps, ils nous entendent pas, nous écoutent pas.
Et cette année, donc, c'est à Villeuf, comme on dirait, c'est l'URQR qui accueille tout ça. Les haut-parleurs, pour une question de taille des locaux, on connaît bien un petit peu, on est quand même assez limité pour accueillir un certain nombre de participants à des réunions de formation comme ça.
Oui,
donc l'URQR est partenaire. Nous sommes partenaires avec l'URQR de l'organisation de ces journées, de ces rencontres. Y participent beaucoup de bars associatifs, mais pas que. Aussi des associations du style un petit peu comme l'URQR qui viennent accompagner les gens dans leurs projets de formation divers et variés qui peuvent être autant culturels que professionnels. Voilà, c'est l'occasion de parler un petit peu d'éducation populaire, de chartes, de développement, de partenariat, enfin de tout, un petit peu ces gros mots.
De soutien à des nouveaux projets.
Et la thématique cette année, parce qu'il y a quand même une thématique qui est quand même assez large, je vous avoue que je ne sais pas trop ce qu'ils vont y mettre dedans, c'est de l'économique et du politique. Voilà, c'est reste assez vaste. Beaucoup d'intervenants, des intervenants extérieurs, des tables rondes, des petits groupes de réflexion, et puis des soirées festives aussi, parce que les haut-parleurs, on est aussi là pour ça, avec deux soirées. La première soirée, c'est vendredi 23 novembre, où on reçoit un artiste qui s'appelle Arthur, qui, dans le cadre un petit peu des soirées qu'organisent Régis et Michel de scène ouverte, on accueille Arthur, qui est un musicien qu'on a vu cet été sur le marché Villefranchois, mais pas que, avec sa guitare, tout seul, seul en scène, qui fait de la chanson. Et samedi 24, une scène ouverte musicale à partir de 20h30, où sont invitées toutes les personnes qui ont participé aux rencontres du CREFAD, qui peuvent être musiciennes et qui ont envie de se donner un petit peu à une soirée d'improvisation musicale. Michel a parlé d'un bœuf énorme, donc voilà, ça c'est samedi 24. C'est l'occasion un petit peu à la fois aussi de découvrir un petit peu l'université rurale de Quercy-Rouergue qui est installée maintenant aux locaux du Pôle emploi. Un endroit assez accueillant avec une bibliothèque très très riche et militante autour de l'économie sociale et solidaire. Beaucoup, on va parler de la DAPES, de beaucoup de choses comme ça. Ça se passe là-bas, ils ont des salles. Nous, les haut-parleurs, on restera ouverts du jeudi au samedi. On accueillera les personnes pour la restauration et aussi pour ces soirées un peu plus festives, comme je vous disais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Je sais pas.
Mais il y a bien des gens qui iront et qui nous feront un petit compte-rendu.
Oui,
arrivera à avoir...
Et puis, moi, j'ai pas encore le détail du programme exactement, oui. Avec toutes les tables rondes et les interventions de chacun.
Ouais,
c'est encore en co-construction.
On arrivera bien à avoir un écho pour pouvoir vous en reparler plus tard, pour voir qu'est-ce qui a été précisé comme point.
Oui, et puis moi, ce que je vais redire ça, mais c'est que du bonus pour nous. Ces rencontres avec d'autres bars associatifs, on y apprend beaucoup, beaucoup de choses. C'est deux rencontres par an. La dernière était à Saint-Afrique, au lieu dit. Et c'était cet été, au mois de juillet. Michel, qui fait partie de l'association, y a participé. Et là, on se retrouve au mois de novembre, et c'est à Villefranche. C'est la première fois. Voilà. À découvrir. Venez si vous avez pas le temps, c'est en journée, tout le monde travaille, enfin c'est pas facile, mais lors des soirées festives du jeudi 22, enfin du vendredi 23 et du samedi 24, il y aura tous les gens du réseau des cafés associatifs. Christian Lamy qui préside ce réseau depuis Clermont-Ferrand. Voilà, c'est l'occasion de venir rencontrer un petit peu d'autres partenaires qui font un peu la même chose que nous en milieu rural.
Voilà. Oui, c'est toujours intéressant d'échanger et de voir un peu ce que les autres ont expérimenté, qui leur ressenti.
Oui, et pour dire aussi que les haut-parleurs, ben on est pas mal, on est à la pointe de beaucoup de choses et qu'on est souvent, on nous demande beaucoup beaucoup d'informations, on est très très sollicité dans ces rencontres.
Oui, parce que ben forcément ça fait 6 ans qu'on tourne, donc on a expérimenté un tas de choses, donc l'expérience de chacun, bon, il faut la faire, mais c'est l'expérience des autres, elle peut être utile aussi.
Oui.
C'est l'événement de la semaine du côté du café associatif et de l'université rurale Kersierwerg, week-end rencontre des créfades, coup d'envoi là ce jeudi, 22 à 18h et les prolongations jusqu'au samedi 24.
Et on n'oublie pas les rendez-vous réguliers comme l'atelier Conversation Italienne le lundi soir.
Tous les lundis, Angela vous attend au bar associatif pour tchaper, tchaper, je sais pas si ça se dit tchatché, non, en italien.
Tchaper, ça serait un peu
aveyronnais,
mais tout le monde comprend. Sauf que il me semble qu'une fois par mois, le rendez-vous a lieu un peu plus tôt. Voilà.
D'accord.
À 17h30.
Voilà, et le collectif migrant, les vendredis matins, et comme rendez-vous régulier cette semaine, la scène ouverte, ça, on l'a dit. Voilà.
Allez, on se quitte avec un reportage. C'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière, consacré au pressage de pommes. Un reportage réalisé à l'occasion de l'anniversaire en 2015. Radio Domino, la radio des Minots. Alex de Radio Média Commun avait emmené une troupe de jeunes reporters sur les lieux de l'anniversaire et notamment autour du pressage de pommes. On en parlait la semaine dernière, le jus de pomme d'actualité toute l'année au café associatif. Les haut-parleurs. Nat, Loulou, excellente journée, belle semaine. À la semaine prochaine, le reportage, un peu de musique et la suite du programme avec Christiane Mar de l'Université Populaire des Savoirs Partagés. On parle de la conférence ce soir au Théâtre Municipal de Villefranche-de-Rouergue d'ici quelques minutes sur CFM. Belle semaine,
merci.
À la semaine prochaine et rendez-vous ce jeudi pour les rencontres CREFAD avec l'EHP et l'Université Rurale Kersierwerg, zoup là.
Comment on fait du jus de pomme ?
Pour faire du jus de pomme, il faut déjà ramasser des pommes. Et ensuite, on les amène ici, on les pèse, et après, elles vont passer dans le broyage. On les broie, après, on va les presser, et ensuite, on a déjà du jus de pomme frais. Et nous, en plus, on le pasteurise.
Combien de litres il faut pour faire des pommes ? Pour faire du jus de pomme ? Combien de pommes pour faire du jus de pomme ?
On part d'un rendement de 50%, donc il faut 2 kilos de pommes pour faire 1 litre. Ça varie. Hein.
Comment s'appelle cette machine ?
Cette machine, en fait, c'est un broyeur et une presse qui ont été adaptés sur une remorque. Donc on va l'appeler l'atelier mobile de pressage, tout simplement. Après, je le tracte avec le gros camion qui est là-bas, où je range les bouteilles, le gaz et tout mon matériel pour pouvoir assurer le pressage des pommes.
Comment elle marche ?
La machine, elle marche avec les personnes qui ramènent les pommes. Et donc, en fait, c'est eux qui font actionner toute la presse et à tout ce qui est broyage. Sans eux, on ne pourrait pas presser. C'est avec l'énergie de tous.
Comment tu t'appelles ?
André. Et ?
Gabin, qu'est-ce que tu fais ?
Ah ben, j'ai apporté des pommes à presser pour faire du jus, et puis j'aide, là. Ouais.
Et toi, Gabin, qu'est-ce que tu fais de beau ?
J'aide à presser.
Alors ça consiste en quoi ? Qu'est-ce que vous faites précisément ?
Porter les seaux pour qu'ils les mettent dans le broyeur.
Et vous avez récolté beaucoup de pommes ?
Beaucoup, 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 oui. Nous avons dépassé la tonne de pommes, je crois, à presser dans la journée.
Vous vous rendez compte ce que ça fait une tonne de pommes ?
Ouais, c'est énorme.
Tu me le redis, combien ça fait une tonne ?
1000 kilos.
Merci. 1000 kilos, vous vous rendez compte ?
10 quintaux. 10 quintaux, puisqu'un quintal, c'est 100 kilos. D'après ce que je me souviens.
On peut presser combien de kilos de pommes dans une journée ? Alors moi, je suis dans une moyenne de 3 tonnes, on va dire. 3 tonnes de pommes. Voilà, et 3 tonnes dans la journée, ça fait à peu près 1500 litres de jus de pomme. Vous l'avez goûté, le jus de pomme? Non? Vous pouvez le goûter. Et vous le goûtez et vous donnez vos impressions.
Ah, bonne idée. Allez, on va goûter le jus de pomme. Du jus de pomme tout frais. Il sort d'où, là, le jus de pomme?
Le jus de pomme, en fait, il sort, là, de la presse. Tu vois, le broyat de pomme, on le met, en fait, entre des clés dans un linge. Et ensuite, il est pressé à peu près à 8 tonnes de pression. Et après, il descend dans le tuyau, là, pour aller se filtrer avant, après, de passer dans la pasteurisation. Alors, comment il est? Il est bon?
Il est bon.
Il est quoi? Il est sucré? Il est acide?
Il est bon.
Ouais, mais il est sucré?
Non.
Non, il est pas trop sucré? Je peux le goûter, moi? Ouais. Il y a plein de... Il y a une petite acidité avec pas mal de sucre.
Qu'est-ce que t'en penses, Luna?
C'est sucré.
Bon, est-ce qu'on va voir après un autre stand? Peut-être on peut aller voir le stand d'embouteillage. Poser quelques questions. Ok? Merci.
Merci.
À bientôt, les enfants.
Merci. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Lola.
Qu'est-ce que tu fais?
Ben là, on est en train d'embouteiller le jus de pomme. Il sort très chaud, je crois qu'il sort à 73 degrés. Et c'est la pasteurisation. Ensuite, il y a une machine, ça ressemble un peu à des pies de vache. Et pour traire le jus de pomme, donc on le met dans des bouteilles en verre et on l'enferme bien avec des capsules neuves. Et ensuite, comme ça, on pourra le boire pendant 2 ans.
D'accord. Merci, au revoir.
De rien, au revoir.
Suite de cette édition du magazine d'actualité avec en studio, comme annoncé, Christiane Marr. Bonjour Christiane.
Bonjour.
Christiane de l'Université populaire des savoirs partagés pour évoquer ce prochain rendez-vous de notre association Villefranchoise. Conférence ce soir 18h30 au théâtre municipal de Villefranche de Rouergue. Conférence qui a pour thème intelligence artificielle en santé, des promesses aux limites. Une conférence animée par Alexandre Mignon. On peut peut-être commencer par présenter Alexandre Mignon, le conférencier. Qui est-il?
Alors, le docteur Alexandre Mignon, il est professeur de médecine en anesthésie-réanimation à l'université Paris-Descartes. Il a toujours été passionné par les nouvelles technologies et donc il a créé le laboratoire e-Lumens, hein, Lumens pour laboratoire universitaire médical d'enseignement numérique et simulation, qui est destiné à former les étudiants, les futurs praticiens, que ce soit infirmiers, tous ceux qui sont en contact avec des patients, que ce soit des infirmiers ou les futurs médecins. Et il a créé d'ailleurs ce laboratoire rue de Saint-Père. Et il reçoit tous les internes maintenant de la région parisienne. Mais il a même créé une start-up qui s'appelle Medusim, qui fournit ce qu'il a appelé des « serious games », c'est-à-dire des jeux en 3D, en 2D ou en 3D, qui permettent aussi la formation par jeu des professionnels de santé. Ce qui permet... alors, j'ai un petit peu recherché pour savoir, parce que je n'y connais rien non plus, hein. D'ailleurs, on pourrait revenir sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle aussi.
Oui, on était à la présentation d'Alexandre, du docteur, voilà. Alexandre Mignon, mais effectivement, voilà. Ça pose beaucoup de questions. L'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler en politique, notamment, et j'imagine que ça doit partager en ce qui concerne le domaine de la santé. Mais de quoi est-il question quand on parle d'intelligence artificielle?
Alors, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui s'est énormément développé depuis les 5 dernières années, surtout.
En politique, notamment, pour orienter certaines élections.
Bon, mais là, ouais. En politique, je ne sais pas. Ouais. En santé, ça s'est énormément développé. Et grâce, d'ailleurs, au docteur Alexandre Mignon, qui a fait beaucoup pour cela, surtout dans la formation. Alors, on appelle intelligence artificielle par opposition à l'intelligence humaine biologique. Tout ce qui peut aider au diagnostic, à la prévention des maladies, à la formation du personnel également. Et ce sont toutes ces sortes
de... Une phénoménale puissance de calcul.
Oui, c'est-à-dire qu'on a des sortes de robots, mais quand je parle de robots, on peut aussi parler d'implants. C'est-à-dire on arrive maintenant à mettre au point des implants qui pèsent 2 grammes, de la taille d'un grain de riz, que l'on peut même implanter dans le cerveau, et qui serait capable, il paraît que c'est imminent, qui serait capable de régénérer, par exemple, les cellules endommagées par un AVC. Par exemple. C'est-à-dire, les espoirs en santé sont immenses.
En termes de diagnostic aussi,
En termes de diagnostic aussi. D'ailleurs, je vais parler d'abord de la formation. Là, j'avais commencé parce que quand je me suis un peu penchée sur la question, je trouve ça... un peu futuriste, il a mis au point, donc Alexandre Mignon, il a mis au point des mannequins high-tech qui parlent, qui respirent, qui saignent, qui peuvent mourir, qui peuvent faire des arrêts cardiaques et sur lesquels des jeunes internes vont travailler pour, si vous voulez, se mettre devant des situations, pour apprendre à gérer des situations d'urgence. Voilà. Et d'ailleurs, ça doit être très très intéressant puisqu'il a signé des partenariats avec des laboratoires américains et des laboratoires du Golfe également, avec l'Algérie aussi, le Maroc, la Tunisie, enfin avec un petit peu dans le monde entier. Hein, il a signé des partenariats justement pour exporter un peu ses pratiques.
Est-ce qu'on peut dire qu'on flirte avec l'immortalité bientôt avec l'intelligence artificielle? Voilà. J'imagine que c'est voilà. En débat obligatoirement.
Oui. Alors, oui. À quoi sert? Parce qu'effectivement, l'IA ne se limite pas à la formation. L'IA, bon, j'évoquais ces petits implants qu'on pouvait mettre dans le cerveau, mais l'IA, ça permet à des robots d'intégrer des milliers de données, ce qu'aucun cerveau humain ne peut faire. Et ensuite, à partir de l'imagerie, par exemple, de la rétine, le robot est capable de faire un diagnostic et même de proposer un traitement à partir des données qu'il a intégrées.
Peut-être même de prévenir un cancer ou des maladies plus graves.
C'est dans le domaine de la prévention. Alors, dans le domaine de la détection, de plus en plus, l'imagerie, ces robots sont capables de détecter des cancers avec 100% de réussite, ce qui est extraordinaire quand même. On l'applique en ce moment, d'ailleurs, lié à la psychiatrie. C'est-à-dire que simplement en ayant emmagasiné des données concernant des milliers de malades, en les écoutant, un robot est capable de dire, à la façon de parler, en analysant les mimiques des patients, est capable de dire s'il s'agit d'une simple dépression, si c'est un accès de schizophrénie, si c'est un stress post-traumatique. Mais c'est vraiment hallucinant. Avec ces implants, alors c'est quand même un peu dans le futur,
c'est la réalité aussi. Hein.
Qui est la réalité, capable de régénérer les cellules, qui serait capable de régénérer les cellules, on s'est rendu compte que tous les espoirs sont permis dans toutes les maladies de dégénérescence liées un peu à la vieillesse, comme Alzheimer, Parkinson. Autrement dit, le but de ces différents laboratoires, il y a des laboratoires anglais, français, américains, qui travaillent là-dessus, serait que quand on mourrait avec toutes les capacités cognitives d'un adulte de 30 ans, quoi, en pleine connaissance, en pleine... même pas maturité, un cerveau qui pourrait marcher à 100%. Ça serait aussi dans la mémoire. Les espoirs sont immenses, mais D'ailleurs, même des choses extraordinaires. Mais ça, je crois qu'il y a eu une émission à la télévision où on a vu un laboratoire est arrivé à faire marcher quelques pas un jeune tétraplégique qui a eu un accident de voiture. Les espoirs vraiment sont immenses. Quelqu'un qui a été amputé, par exemple, pourrait, grâce à une prothèse, faire marcher grâce à un implant, faire marcher sa prothèse. Ce qu'on placerait dans le cerveau, ils appellent ça des neuroprothèses d'ailleurs. C'est vraiment les espoirs et les sont vraiment immenses. Alors,
on n'est plus dans le film d'anticipation, là c'est la réalité, est dans la promesse.
Disons que beaucoup c'est encore dans les espoirs, mais faire marcher grâce à un implant, c'est ça déjà.
C'est une réalité.
Voilà. Mmh. Alors.
On se frotte aux limites, des limites qui vont être repoussées, j'imagine, voilà. ces dix prochaines années.
Alors, les limites, il y a surtout des problèmes éthiques qui se posent. Parce qu'il n'y a pas simplement le domaine de la santé. On commence à parler déjà des exosquelettes qui pourraient augmenter la force physique des soldats.
Ah oui,
super. Voilà. Communiquer de cerveau à cerveau.
Ça, on est très en retard, mais allons voir du côté de l'Australie et des aborigènes ce qui se passe.
Et écrire avec son cerveau aussi, mais c'est déjà ce qu'essaie de mettre en pratique déjà certains laboratoires. Et alors là, des scientifiques essaient de freiner ce genre de choses, parce que les limites, est-ce qu'à la limite... on pourrait pas ensuite prendre le contrôle du cerveau d'un individu. On est dans la science-fiction encore.
Et puis cette histoire d'immortalité, tout de même, il y a une quête.
Alors, c'est ce que dit ce fameux labo, dont j'ai oublié le nom, ce fameux laboratoire américain, qui avait dit « Mais l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, est déjà parmi nous. » C'est-à-dire en considérant la mort comme une maladie, on pourrait arriver... à faire vivre les gens beaucoup plus vieux. Pour le moment, on essaie déjà de faire vivre les gens dans de bonnes conditions. Voilà. Mais est-ce qu'on ne peut pas arriver à essayer même d'aller ce qu'on a appelé vers un transhumanisme? Et alors là, ça pose des questions, des problèmes éthiques énormes, parce que ça pose des problèmes... l'égalité devant la mort, déjà. L'égalité aussi devant ce savoir informatique. Il y aura toujours ceux qui auront mis au point ces fameux robots qui seront toujours à la pointe. Et puis le reste de l'humanité.
C'est l'accès à cette science aussi.
L'accès, c'est ce que je disais, deux humanités. Donc, ce qui se profile, n'est finalement, l'intelligence artificielle... les espoirs sont, c'est vrai, immenses. Mais il y a aussi des problèmes éthiques qui se posent, des limites aussi, parce que on arrive à des robots qui sont capables de détecter les maladies, qui seront capables de détecter, mais qui ont été programmés, donc dans un domaine très pointu, mais comment on peut, et qui seront capables d'ailleurs de donner des traitements personnalisés. Mais comment un cerveau humain qui n'aura pas toutes ces données pourra quand même maîtriser ce genre de choses. De plus, est-ce qu'on va vers une médecine qui serait totalement déshumanisée à ce moment-là? Ça pose quand même des problèmes éthiques, des limites, même si ça soulève d'immenses espoirs. Je parlais toujours de ce tétraplégique parce que ça m'avait frappé. Pouvoir se dire que peut-être un jour, il va marcher. Voilà, nous en sommes au carrefour, vraiment au carrefour. Et je crois que le professeur Alexandre Mignon, qui est vraiment, c'est quelqu'un qui maîtrise bien ce domaine, va pouvoir nous parler de tout cela.
Une conférence d'avance passionnante, dès que ça parle de santé, il y a un public fidèle sur ce type de thématique.
Oui. J'avais mis dans l'article la réflexion de Stephen Hawking, le célèbre physicien, qui disait l'IA pourrait être la fin de la race humaine. Carrément, il avait déjà vu ce genre de choses, alors que pour lui... étant donné ces problèmes, peut-être que l'IA, justement, pour des gens qui ont ce type de problèmes, pourra être un formidable espoir.
Une conférence pile dans l'actualité de cette série diffusée actuellement sur Arte Ad Vitam, qui parle, je crois, d'immortalité. C'est en replay, hein, Ad Vitam. En attendant ce soir, Alexandre Mignon pour évoquer l'intelligence artificielle en santé, des promesses aux limites, à 18h30 au Théâtre Municipal de Villefranche de Rouergue, dans le confort chauffé du Théâtre Municipal de Villefranche. Nouvelle proposition de l'Université des Savoirs Partagés. C'était Christiane Marr en studio pour nous présenter et animer notre curiosité autour de cette conférence. Rendez-vous ce soir, 18h30 au Théâtre. Merci Christiane, une belle journée, à très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.